Pendant tout l'été, entre 13h et 14h, Serge Sauvion vous raconte des enquêtes policières dans Crime Story. Tout de suite, le premier épisode, la scène de la mort.
Léo Manfred est fasciné par la femme qui est arrivée au volant de la Duesenberg noire. Elle a le maintien d'un mannequin, ou peut-être d'une danseuse. Elle a les chevilles, les jambes, la démarche d'une danseuse. Léo s'extirpe dessous la voiture sur laquelle il travaille afin de l'examiner de plus près. Elle est entièrement vêtue de blanc. Chapeau blanc ou large rebord, comme pour dissimuler son visage d'écolière. Robe blanche, suffisamment ajustée pour mettre son corps en valeur. Chaussures blanches à talons aiguilles. Mais il y a plus que sa mise et son maintien. Cette jeune femme a quelque chose d'étrange, presque de mystérieux. Et le mystère s'accorde mal avec la graisse et la crasse du garage Wagner. Léo se remet debout. Karl Wagner, son patron, qui s'intéresse plus aux moteurs qu'aux femmes, quelles qu'elles soient, lui cache le visage de la jeune fille en blanc, mais la voix de cette dernière, lorsqu'elle parle, est délicieusement douce. « Monsieur Wagner, demande-t-elle, pouvez-vous me dire quand ma voiture sera prête ?»« Ben, c'est un gros moteur, Miss River, répond le garagiste, les yeux fixés sur la voiture. Il faut que tous les cylindres soient synchronisés. Votre père est toujours très pointilleux à cet égard. » Karl Wagner essuie distraitement ses mains maculées de cambouis sur son bleu de travail et lève la tête en regardant Léo. « Mon aide va vous reconduire chez vous. Vous pouvez dire à votre père que nous lui ramènerons la voiture dès qu'elle sera prête. » Apparemment indifférent, Léo s'installe au volant de la voiture de son patron. Il ne sait pas encore comment il va la saisir, mais il sait déjà que vient de se présenter à lui la chance de sa vie. L'occasion unique qu'il ne laissera pas échapper. Une fois passé le boulevard, Léo s'engage dans les collines sur les indications de Miss River. Et 20 minutes plus tard, après avoir parcouru une longue allée privée, la Pontiac s'arrête devant le perron d'une immense villa du plus pur style hollywoodien dans ses débuts. Oh, elle a dû coûter un bon petit matelas de billets, songe Léo. Un jardinier s'affaire non loin sur une pelouse de la taille d'un pré. L'endroit a cependant quelque chose de défraîchi, d'un peu nostalgique. « Mais je connais cette maison !» s'écrie-t-il au moment où il accompagne sa passagère jusqu'à la porte. « Je l'ai vue en photo, mais oui, je l'ai vue en photo !» C'est la maison que le grand directeur de film, Gavin River, a fait construire pour sa jeune femme, Monica. La maison s'appelle Manvere, dit la jeune femme en blanc, en sortant une clé de son sac qu'elle insère dans la serrure. Si vous êtes Miss River, alors vous êtes la fille de Monica Parrish, s'exclame Léo. C'est pas étonnant que j'ai pas pu vous quitter des yeux. Non, proteste-t-il en voyant qu'elle lui tend un billet de 1 $. Je peux pas accepter d'argent de vous. Votre mère était une de mes idoles. Je suppliais mon oncle de me donner des sous. Oui, mon oncle, parce que j'étais orphelin. De me donner des sous pour aller au cinéma chaque fois qu'on passait un Monica Parrish. J'avais 11 ou 12 ans à l'époque. Mais jamais, jamais je n'ai manqué un film de votre père et de votre mère. La porte se referme avant que Léo puisse en dire davantage. Mais il devine qu'elle sourit dans l'ombre du chapeau. De retour au garage, il bombarde Karl Wagner de questions. Il veut tout savoir sur la famille de cette jeune fille. Le garagiste évoque quelques souvenirs d'un ton rêveur. Oh, Gavin River n'a pas eu de chance. Alors qu'il atteignait les sommets de son art, il s'est brisé la colonne vertébrale en jouant au polo. Il s'est retrouvé dans une chaise roulante. Après 2 ans à l'hôpital, il a essayé de faire sa rentrée, mais tout avait changé. Il a essuyé 2 échecs et il a pris sa retraite.
Et Monica Parrish?
Leur carrière était liée, dit Wagner. Je crois que finalement, elle a divorcé, qu'elle a épousé un comte, je ne sais plus quoi, à moins qu'elle soit donnée à la religion hindoue, je sais pas. Mais qu'est-ce que ça peut faire, hein? Les étoiles montent et tombent, Léo, mais un bon moteur. Déjà, Léo ne l'écoute plus. Sur la foi de ses observations personnelles et des quelques informations glanées auprès de son patron, son esprit fertile et tortueux est trop occupé à concocter un plan qui pourrait lui permettre, tout en faisant fortune, d'épouser une des plus jolies filles du monde. « Je conduirai la voiture quand elle sera prête », dit-il simplement. La première partie de son plan se déroule comme dans un rêve. C'est la jeune femme en blanc, elle-même, qui vient lui ouvrir la porte. Et, sous prétexte de lui faire vérifier le ronronnement du moteur, il l'emmène se promener en voiture, ce qui lui permet de commencer à la charmer par sa conversation. Au retour, au moment de rentrer la voiture au garage, il simule une petite panne, ce qui lui donne un petit supplément de temps et lui permet de faire la connaissance du père de Miss River, un homme impressionnant, même dans une chaise roulante. Quand il le faut, Léo peut parfaitement affecter l'humilité. En sa présence, le regard de River ne tarde pas à s'illuminer. Pendant un moment, l'ancien acteur va évoquer des souvenirs du passé, tandis que Léo peut observer la jeune fille à son gré, pudiquement dissimulée par sa grande capeline. Quand la conversation s'amenuise, Léo prétexte qu'il s'est sali les mains en tripotant le carburateur pour s'attarder encore un peu. « Monica va vous conduire jusqu'à la salle de bain », dit courtoisement son hôte, comme il l'espérait. Ainsi, la jeune fille s'appelle Monica, comme sa mère. Le cerveau de Léo enregistre fidèlement l'information dont il va bientôt se servir. En effet, l'occasion se présente quelques minutes plus tard quand il redescend dans le hall. Alors qu'il est tombé en arrêt devant une photo du couple River-Parrish, survient la jeune fille dans la pénombre. Le cœur battant, il hésite un instant. « Et si elle me jette dehors » songe-t-il. De toute manière, d'ici une minute, elle va me raccompagner à la porte, autant tenter ma chance avant. Alors, il la prend par les épaules et l'attire contre lui. Pendant quelques secondes terrifiantes, il se demande si elle va hurler ou s'abandonner entre ses bras. Mais finalement, elle s'abandonne. Nous ne connaissons pas encore la totalité du plan conçu par Léo. Mais la première phase semble se dérouler selon ses prévisions. Qu'en sera-t-il de la suite? La réponse d'ici quelques instants.
Jusqu'à 14h, Crime Story avec Serge Sauvion, c'est la suite de l'épisode La scène de la mort.
De lui et de son charme, un jeune garagiste, Léo Manfred, a décidé de séduire Miss River et qu'il croit la fille de deux anciennes stars du cinéma hollywoodien. Il s'intéresse moins aux traits de la jeune femme, qui porte par ailleurs toujours de grands chapeaux, qu'à la fortune de son père, un homme âgé qui, à la suite d'un accident, ne se déplace plus qu'en fauteuil roulant. La première phase du plan de Léo semble s'accomplir selon ses voeux. À sa première tentative, la jeune fille s'est laissée embrasser. La rapidité de sa conquête n'étonne pas Léo. Monica River a été suffisamment bridée pour qu'un homme capable de saisir sa chance au vol la trouve prête à être cueillie. Sa cour se révèle plus facile qu'il n'avait osé l'espérer. D'abord, il se retrouve, plus ou moins furtivement, dans des endroits écartés et discrets où Monica a plaisir à s'asseoir dans des boxes à demi-obscures ou à des tables éclairées seulement à la bougie. Elle fuit les clubs à la mode et les lumières vives, ce que Léo trouve à la fois rafraîchissant et économique. Fort heureusement, La Duesenberg présente sans trop tarder de nouveaux ennuis mécaniques. Léo peut ainsi se rendre à nouveau à Monvere où il s'affaire sur le moteur pendant que Gavin River l'observe de sa chaise roulante, heureux de lui donner des ordres et d'évoquer le passé. Un homme dans une chaise roulante. La situation comporte d'intéressantes possibilités, étant donné surtout que le terrain sur lequel cette chaise est utilisée surplombe la ville et que le sol est à la fois inégal et mal entretenu. À l'évidence, le jardinier ne s'occupe que du devant de la maison. Au cours d'inspections ultérieures, Léo s'aperçoit que l'arrière est dans un triste état, y compris le patio où River aime tant se dorer au soleil et qui domine de quelques 70 mètres une autoroute. Dans ce patio, Léo se livre à une expérience à l'aide d'une vieille boule de croquettes qu'il trouve dans le garage. Il se rend compte ainsi qu'il y a une nette pente en direction du vide avec, pour seul obstacle, une murette de stuc très basse et branlante. Comme il s'arrache à l'observation minutieuse de cette murette branlante, Léo découvre que Monica, à quelques mètres, l'observe dessous l'ombre de son chapeau de paille à large bord. Il se montre immédiatement à la hauteur de la situation. « J'espérais bien que vous me suivriez ici. Il fallait que je vous voie seul. Ça ne peut pas durer comme ça, Monica. Je ne peux pas continuer à vous voir, vous entendre, vous toucher sans jamais vous posséder. Je veux vous épouser, Monica. Je veux vous épouser sans délai. » Léo a une façon particulière de prononcer ce « sans délai » qui laisse toujours les femmes quelque peu pantelantes. Monica River ne fait pas exception. Elle s'accroche à lui avec soumission et promet de parler à Gavin River dès qu'elle le pourra. Deux jours plus tard, Léo est officiellement convoqué dans la galerie de Monvere. Gavin River le reçoit au milieu des sacro-saintes photos de sa carrière d'acteur, à côté de l'Oscar rutilant dont il lui a si souvent parlé. Monica se tient discrètement dans l'ombre, derrière la chaise roulante. Elle a bien plaidé sa cause. Gavin River est d'accord pour le mariage, à une condition, cependant. Vous voyez autour de nous les souvenirs de gloire passée. Je sais que cela peut vous paraître stupide, mais mis à part leur valeur sentimentale, ces reliques attestent que Monica est habituée à un certain train de vie. J'espérais faire en sorte qu'il en soit toujours ainsi, mais depuis mon accident, les compagnies d'assurance refusent de m'assurer sur la vie. Je dois être sûr que Monica sera protégée quand je quitterai ce monde. Si vous êtes en assez bonne santé pour passer la visite médicale et obtenir une police d'assurance sur la vie de $50,000 au bénéfice de Monica River, je consentirai au mariage. Autrement, non! Vous pouvez vous adresser à n'importe quelle compagnie d'assurance, ajoute River, à condition bien sûr qu'elle jouisse d'une bonne réputation. Monica, ma chérie, notre vieil ami Jeremy Hodges ne représente-t-il pas la Pacific Mutual? Regarde donc un peu si sa carte n'est pas dans mon bureau. La carte est dans le bureau. Je peux téléphoner et prendre rendez-vous si vous le désirez, conclut River. Mais si vous allez trouver Hodges, de grâce pour la fierté d'un homme âgé, ne lui dites pas la raison qui vous fait agir ainsi. Je ne veux pas que l'on aille colporter que Gavin River en est réduit à passer des marchés. Sa voix se brise. Les choses sont donc plus avancées que Léo n'osait l'espérer, ce qui va tout faciliter. Léo accepte la carte et demande à Gavin de bien vouloir lui prendre rendez-vous. Il peut bien céder aux caprices d'un homme âgé qui n'en a plus pour longtemps à vivre. Doté par Mère Nature d'une constitution robuste, Léo obtient sa police d'assurance sans aucune difficulté. River se déclare satisfait et on décide d'une date pour le mariage. Il ne reste plus qu'à discuter dans le détail des projets d'une très simple cérémonie dans la plus stricte intimité et de la lune de miel. C'est précisément ce que Léo, son futur beau-père, et sa future épouse sont en train de faire dans le patio par cette belle après-midi ensoleillée. Tandis que River parle, évoquant le souvenir de sa propre lune de miel à Honolulu, Monica pousse sa chaise roulante. Elle étreint un nouveau chapeau à large bord qui protège son visage des rayons qui dardent L'air est chaud, mais une forte brise souffle de l'extrémité du patio, à l'endroit où le sol part en pente douce vers le précipice. À un moment donné, Monica lâche la chaise pour retenir son chapeau, et la chaise roule de quelques 30 centimètres vers le bord du patio avant qu'elle ne la rattrape. Léo contrôle son émotion pour un peu. Son rêve se réalisait sans aucune intervention de sa part. L'idée lui traverse l'esprit que Monica s'est peut-être montrée plus perspicace qu'elle ne l'a laissé supposer le jour où elle l'a surpris près de la murette. Se pourrait-il qu'elle ait envie, elle aussi, de se débarrasser de Gavin? Parvenue maintenant à l'extrémité du patio, elle fait exécuter un demi-tour à la chaise. Rivera continue à bavarder. Là, sans doute, Monica s'est assise sur la murette pour se reposer. Léo se retient pour ne pas crier. « Un véritable Éden pour deux jeunes amoureux !» poursuit Gavin. « Je me souviens !» Sans que Monica s'en aperçoive, occupée qu'elle est à arranger les plis de sa jupe, la vieille murette a craqué sous son poids et commence à pencher en direction du précipice. Léo s'avance rapidement. Tout va de travers. Monica est son contrat d'achat pour Monvere et voici tous ses biens magnifiques en équilibre au bord d'un précipice. La fissure s'élargit. Attention ! Personne ne connaîtra jamais les mots que Léo Manfred allait prononcer ensuite. Sa phrase s'achève en gémissement. Car Gavin River, ayant au même instant, comme dans un rôle appris d'avance, déplacé sa chaise en l'agrippant par les roues, Léo se cogne dans la dite chaise et, ce faisant, il perd l'équilibre à l'extrême bord de la murette, croulante. Au même moment, Monica se lève pour rattraper son chapeau que le vent emporte. Dans un brouillard, Léo l'entrevoit tourné vers lui, tandis que, la tête la première, il plonge vers l'éternité. En de telles circonstances, le temps suspend son cours comme sur les horribles photos de la galerie des gloires passées de Gavin River. En cet instant épouvantable, Léo voit ce qu'il n'a pu remarquer auparavant parce qu'il était trop centré sur lui-même. Il voit le visage de Monica River, sans chapeau et sans ombre. Le visage d'une femme déjà âgée, mais qui sourit d'un air satisfait. Léo Manfred n'a plus l'heure de mesurer la distance de façon exacte, mais il y a largement plus de 70 mètres jusqu'à l'autoroute qui passe en contrebas. En matière de police d'assurance portant sur des sommes élevées, la Pacific Mutuelle se livre toujours à une enquête très poussée. Jeremy Hodges, étant un vieil ami, se montre extrêmement arrangeant. Il signale que le jeune homme a insisté pour que Monica River soit la seule bénéficiaire de son assurance et refusé d'en donner la raison. « C'est une question personnelle », a-t-il déclaré. « Qu'est-ce que ça change ?» Ça ne change rien pour Hodges lorsqu'une prime aussi importante est en jeu. « C'est très touchant !» déclare Gavin River. Nous connaissions ce jeune homme depuis si peu de temps. Il m'avait ramené mon automobile de garage et depuis, il se consumait d'admiration pour Monica. Monica se tient debout près de l'Oscar. Elle sourit doucement. Il m'a dit que, petit garçon, il était un grand admirateur de Monica Parrish. Jeremy tend le chèque de l'assurance à Gavin, puis baise galamment la main de Monica. « Nous sommes tous des admirateurs et des petits garçons en présence de Monica Parrish. Mais comment faites-vous, ma chère? Quel est votre secret? Les années agissent sur Gavin comme sur moi, mais semblent ne même pas vous effleurer. » C'est un doux... C'est un pieux mensonge. Les années l'ont touchée. Près des yeux, qu'elle aime garder dans l'ombre. Près de la bouche, qui se durcit parfois. Comme c'est le cas lorsque Jeremy partit, Gavin examine le chèque.
Une grande tragédie,
dit-il sur le mode méditatif. Mais comme tu me l'as expliqué lors de la répétition, ma chérie, en fait, c'était son idée à lui. Mais cet argent ne nous fera pas de mal. Je vais me mettre en quête d'un bon scénario. Monica Perich écoute à peine. Kevin peut avoir ses rêves. Elle, elle a eu sa revanche. Elle redresse fièrement la tête. La critique se serait montrée unanime, dit-elle. J'ai été magnifique dans la scène de la mort.
Épisode dans Crime Story raconté par Serge Sauvion. Voici la pâle clarté des rêves.
À l'entrée de la prison, une trentaine de personnes attendent. Certains portent des fusils, d'autres sont armés de bâtons. Ils ont les yeux rivés sur la porte, mais pour l'instant, ils ne bougent pas. De temps à autre, un cri fuse dans la foule.
« On aura ta peau, Randall! Tu vas crever, en mémoire de Bill Walker !»
Tom Bragan, le shérif de la ville, observe les manifestants par la fenêtre. « On appelle des renforts ?» demande Jed, son adjoint.
« Ce serait plus prudent, tout de même. Les mineurs ont bu un coup de trop, on ne sait jamais ce qu'ils peuvent faire. »«
Non, pas question, » réplique Tom. « On va se débrouiller tout seul. Ces types n'ont pas vraiment envie de lyncher Randall. Dans un quart d'heure, ils partiront se coucher bien gentiment. »«
Hé, Bragan !» hurle Randall de sa cellule. « Vous n'avez pas le droit de me garder ici. J'exige de voir mon avocat immédiatement. »
Tom Bragan se retourne vers lui. « À ta place, Randall, je ne crânerai pas. Tu as tué un homme et c'est beaucoup plus grave qu'une contravention. De plus, si tu mets un pied dehors, les habitants de cette ville se disputeront l'honneur de te tuer. Crois-moi, mon vieux, il vaut mieux attendre tranquillement l'arrivée du juge. »
« Un juge ? Mais vous oubliez à qui vous avez affaire, Bragan. Cette ville m'appartient. Le juge me relâchera tout de suite et en plus, il me présentera ses excuses. »
Eric Randall possède en effet toutes les mines d'or des alentours. Elles font vivre la région. Tous les habitants de Creektown travaillent pour lui. Ce soir, Eric était ivre. Par défi, il a garé sa somptueuse Cadillac devant le saloon où viennent boire les mineurs. Puis il est entré. Il portait un smoking noir et une écharpe de soie blanche. Il a commencé à se moquer de tous ces pauvres bougres qu'il emploie pour un salaire de misère.
« T'admirable !» l'aura-t-il lancé. « Grâce à vous, je suis riche. Vous êtes mes esclaves. Je peux vous virer quand je veux, et alors vous crèverez de faim. »
Randall s'est approché d'un mineur. « Dis donc, Vanner, j'ai observé ta femme. Elle est vraiment très belle, hein ? Écoute-moi, bonhomme, je la veux dans mon lit ce soir, ou alors tu pourras dire adieu à ton boulot. » C'est à ce moment-là que Bill Walker, un des mineurs, a brisé une bouteille sur le bord du comptoir. « Approche, mon gars. » lui a dit Randall. « Ça fait longtemps que j'ai envie de tuer l'un d'entre vous. » Des mineurs ont retenu Walker, mais pendant qu'il le ceinturait, Randall a sorti un revolver et l'a froidement abattu.
« Que ça vous serve de leçon !»
a dit Randall en reculant vers la sortie.
« N'oubliez jamais que je suis le maître ici !»
Lentement, les mineurs ont commencé à s'approcher de lui. C'est à ce moment-là que Bragan est entré dans le saloon. Tout en menaçant les hommes avec son arme, il a entraîné Randall vers la prison. Le téléphone sonne sur le bureau de Bragan. Il décroche. Allô, oui? Allô, shérif? Ici le gouverneur Chaldon. On m'a dit que vous aviez des ennuis. Non, 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 gouverneur, nous n'avons aucun ennui. On m'a raconté que vous aviez arrêté Eric Randall et que la population voulait le lyncher. Je connais mon métier, gouverneur. Randall a tué un homme, mais il n'y aura pas de lynchage. Faites bien attention, Bragan. Cette histoire de meurtre est sûrement un malentendu. Randall est un citoyen honorable. N'oubliez pas tout ce qu'il a fait pour notre région. S'il lui arrivait quelque chose, je m'occuperai personnellement de vous. Le gouverneur raccroche brutalement. Dans sa cellule, Randall éclate de rire. Alors, Bragan, on s'est fait tirer les oreilles? À ta place, Randall, je ne serais pas si fier. Il y avait des témoins dans le saloon, une bonne dizaine de mineurs. Ils se feront un plaisir de témoigner contre toi. Allons donc, je les achèterai. Vous verrez qu'au tribunal, la mémoire leur fera défaut. Cette affaire me coûtera une vingtaine de dollars et voilà tout. Par la fenêtre, on entend un cri. Bragan, donne-nous cette ordure! Donne-nous Randall, sinon on viendra le chercher! Jed les observe par la fenêtre. Il se retourne vers Tom. On devrait appeler des renforts, ils sont surexcités. Mais non, Jed, je les connais. Ils ont une grande gueule, mais ils n'oseront jamais s'attaquer à moi. Tout à coup, les phares d'une voiture illuminent la foule. Les manifestants s'écartent. La décapotable freine brutalement devant la prison. Une jeune femme saute de l'auto et grimpe rapidement les marches. Bragan lui ouvre aussitôt la porte. Hélène, Hélène, tu n'aurais pas dû venir. C'est trop dangereux. Tom, je ne pouvais pas faire autrement. Eric est un bon à rien, mais c'est mon frère. C'est vrai ce qu'on raconte? Il a tué quelqu'un? Oui, Hélène. Un mineur. L'homme s'appelait Bill Walker. Hélène Randall s'approche de la cellule où est allongé son frère. « Hélène !» s'exclame-t-il. « Qui es-tu venu voir? Ton frère chéri ou ton fiancé adoré ?» Hélène et Tom Bragan sont fiancés depuis quelques semaines. Dans un mois, leur mariage doit être célébré. « Il paraît que j'ai tué un homme, » reprend Eric. « Un certain Bill Walder, Walter, Bill Walker, » dit Jed. « Il laisse une femme et 6 gosses. »« Ah oui ?» réplique Randall. « Ces mineurs se reproduisent vraiment comme des lapins. » Hélène entraîne Tom à l'écart. « Tom, tu ne peux rien faire pour lui? Tu ne peux pas le faire échapper? » ?»« Non, Hélène. Même pour toi, je ne ferai pas une chose pareille. Eric doit être jugé. Si je l'aidais à s'enfuir, je ne pourrais plus me regarder dans une glace. » Maintenant, il vaut mieux que tu partes, ma chérie. Les mineurs qui attendent dehors savent que nous sommes fiancés. Ils vont croire que je cherche à sauver Eric et ils vont s'énerver. Elle marche vers la porte. Tom la rejoint. Hélène, tu ne m'en veux pas? Non, Tom. Je sais ce que représente la loi pour toi. Je n'aurais pas dû te demander ça. Devant la porte de la prison, les mineurs sont toujours massés. Lorsqu'Hélène apparaît, des sifflets et des insultes fusent. Alors Tom sort derrière elle, son arme à la main. Écoutez-moi, vous autres! Vous allez laisser passer Hélène Randall. Le premier qui la touche aura affaire à moi. La foule s'écarte. Hélène arrive à rejoindre sa voiture et à démarrer. Lorsqu'il revient dans la prison, Tom surprend une conversation entre Jed et Randall. Jed est assis devant les barreaux de la cellule et Eric lui parle à mi-voix. Ces dingues vont me tuer, j'en suis sûr. Il faut absolument me sortir d'ici. Si tu m'aides, je te donnerai $1,000. En entendant les pas de Tom derrière lui, Jed se retourne brusquement. Bragan, t'as entendu? Randall essaie de me corrompre. J'ai entendu, Jed. J'ai entendu. Et j'ai eu l'impression que tu n'étais pas insensible à sa proposition. Jed se lève brusquement. Il s'approche de Tom et le regarde droit dans les yeux. Tu n'as pas le droit de me dire ça. Je suis ton adjoint depuis 3 ans et je ne t'ai jamais trahi. Il y a un début à tout, Jed. Ils semblent tous deux prêts à se battre, mais tout à coup, un fracas détourne leur attention. C'est une pierre qui vient de briser la fenêtre. Elle a atterri au pied de Tom. « Appelons le gouverneur, » dit Jed. « Cette fois, les choses prennent une sale tournure. Ils vont nous attaquer. »«
Non, » répond Tom.
« Nous allons nous en tirer tout seuls. Je vais lancer une grenade lacrymogène et ils rentreront bien tranquillement chez eux. » Bragan se dirige vers le coin où sont rangés les explosifs. Soudain, Jed se dresse devant lui. « Ne fais pas ça, Tom. Ça va les rendre fous furieux. » Bragan l'écarte brutalement et s'empare d'une grenade. Il s'approche de la fenêtre brisée. Il dégoupille rapidement la grenade et la lance sur la foule. On entend au dehors des hurlements. Les mineurs courent dans tous les sens. En un instant, il n'y a plus personne sur la place.
« Voilà, » soupire Tom. « Ils n'en reviendront pas de si tôt. »«
Je n'en suis pas si sûr, » réplique Jed. Ils seront de retour dans moins d'une heure, et alors rien ne pourra plus les arrêter. Non, Tom, je t'en prie, profitons de ce répit pour conduire Randall à la prison de Santa Fe. Là-bas, ils ne pourront rien lui faire. Bragan, crie Eric de sa cellule, faites ce qu'il vous dit, je vous donnerai $5,000.
Non, Randall. Si je fais ça, tu t'enfuiras sur le chemin avec l'aide de Jed.
Parce que c'est ça que vous avez manigancé tout à l'heure, hein? Jed, je vais te demander de me remettre ton insigne et ton arme. Tu n'en es plus digne. Jed le regarde avec stupéfaction. Mais il n'a pas le choix.
Bragan tient sa carabine braquée sur lui.
Il défait son ceinturon et jette son étoile sur le bureau.
Je ne te comprends plus, Tom.
À moins que tu ne veuilles empocher les $5,000 sans témoin, c'est ça, pas vrai? Tu vas conduire Randall à Santa Fe et tu prendras son fric en douce.
Bragan ne répond pas.
Avec la pointe de sa carabine, il pousse Jed vers la porte.
Sors maintenant, Jed. Je n'ai plus besoin de toi. Je garderai Randall tout seul.
Dès que Jed a quitté la prison, Randall s'écrie « Shérif ! Shérif, maintenant on va pouvoir s'arranger, hein ? Alors, c'est entendu, pour $5,000, vous m'emmenez à la prison de Santa Fe ?»
Bragan se retourne vers lui en souriant. « Tu as du mal à comprendre, mon vieux. Je n'ai pas changé d'idée. On reste là et on attend le juge. »
Plutôt méfiant, ce Bragan. Enfin, espérons qu'il arrivera à s'en sortir tout seul. Nous verrons ça dans un instant.
C'est la suite de l'épisode La pâle clarté des rêves dans Crime Story avec Serge Sauvion.
Eric Randall, le patron des mines de Creektown, a tué un homme dans le saloon. Le shérif Bragan l'a mis en prison, mais les mineurs groupés devant la porte veulent le lyncher. En plus, maintenant, Bragan est seul. Il vient de renvoyer Jed, son adjoint, qu'il soupçonnait de se laisser corrompre par Randall. Quelques instants plus tard, la foule s'est reformée devant la prison. Bragan observe les manifestants par la fenêtre. Cette fois, ils ont l'air fous de rage. Bientôt, on entend des coups sur la porte. Les mineurs tentent de la défoncer à l'aide d'une poutre.
« Vous devez me protéger !» hurle Randall. « Vous n'avez pas le droit de les laisser faire !»
Bragan pointe sa carabine sur la porte. « Ils n'y arriveront pas, » dit-il. « Le bois est trop solide. » Quels idiots! Aucun n'a songé à contourner la prison pour nous attaquer par derrière. Peu à peu, les coups perdent de leur force. Les manifestants semblent s'épuiser. Bragan pose sa carabine, puis, par une fenêtre, il observe la ruelle située dans le dos de la prison. Il sait que le danger ne peut venir que de là. La porte qui protège ce passage est peu solide. Les mineurs pourraient la briser d'un simple coup d'épaule. Tout à coup, Bragan a l'air soucieux. Il reprend sa carabine et dit à Randall, « J'ai entendu un bruit, là. Il faut que je sorte pour voir s'il n'y a personne. » Si l'un des mineurs a découvert cette entrée, il va appeler les autres et nous serons fichus. Bragan prend les clés et s'éloigne dans la ruelle.
Randall se terre dans sa cellule. Il guette tous les bruits avec angoisse. Il entend les cris qui montent devant la prison.
« On aura ta peau, Randall !»«
Sors de là, Bragan. On ne te fera rien. Laisse-nous seulement ce salaud !»
Tout à coup, Randall s'affole. Il empoigne les barreaux de sa cellule et il les secoue furieusement. Il vient d'entendre un cri derrière la prison.
« Par là, les gars, c'est plus facile !»
La petite fenêtre à côté de l'entrée des rebés vole soudain en éclats. Randall voit une torche rouler au pied du bureau de Bragan. En une seconde, le bureau prend feu. Bragan revient précipitamment. Il ouvre la cellule de Randall et lui donne un revolver. Ils ont trouvé l'entrée des rebés. Nous n'avons plus qu'à tenter une sortie. Les deux hommes s'approchent de la petite porte. Ils l'ouvrent. La foule qui a contourné la prison les attend.
« Ne le touchez pas !» hurle Bragan. « C'est mon prisonnier !»
Il fonce vers les mineurs avec son arme en tirant des coups de feu en l'air. Mais les manifestants ne s'écartent pas. Bientôt, Bragan est encerclé. Par derrière, un homme lui assène un violent coup de crosse. Il s'écroule. Alors les mineurs s'approchent lentement de Randall.
« Restez où vous êtes ! Restez où vous êtes !» dit-il en agitant son revolver. « Je vais tirer !»
Les mineurs ne l'écoutent pas. Tout à coup, il fonce sur lui, le maîtrise sans peine.
« Fais ta prière, Randall !» hurle une voix. « Dans un instant, tu te balanceras au bout d'une corde !»« Non !» supplie Randall. « Non !»
À peine une heure plus tard, tous les mineurs sont rentrés chez eux. Le corps d'Eric Randall se balance à un arbre devant la prison calcinée. Tom serre Hélène dans ses bras. J'ai fait tout ce que j'ai pu. Mais ils étaient comme des chiens enragés. Oh, Hélène, pardonne-moi. Tu n'as rien à te reprocher, Tom. Je sais que tu as défendu mon frère jusqu'au bout. Tu ne pouvais rien faire contre tous ces hommes.
Au pied de Randall, Tom voit l'arme qu'il lui avait donnée pour se défendre.
Il se penche pour la ramasser.
Plus un geste !
Crie une voix derrière lui. Bragan se retourne. Il voit Jed qui tient un revolver pointé sur lui. Bah, Jed, qu'est-ce qui te prend ?
Hélène se précipite sur Jed, mais celui-ci la repousse violemment. Ne vous mêlez pas de ça, Hélène.
Tom, tu vois l'arme qui est à tes pieds ? C'est celle que tu as donnée à Randall pour se défendre. Je vais te laisser la même chance. Ramasse-la.
Bragan prend le revolver à ses pieds.
Où veux-tu en venir, Jed ?
Nous allons nous battre, Tom. Nous avons chacun un revolver.
Je te laisse tirer le premier. Bragan regarde son pistolet d'un air hésitant.
Qu'y a-t-il, Tom ?
Dit Jed.
Cette arme ne te convient pas ?
Pourtant, tu l'as donnée à Randall ?
Je le sais, j'étais parmi les manifestants.
Lorsqu'ils se sont emparés de lui, il a laissé tomber ce revolver. Je l'ai ramassé pour tenter de le défendre. J'ai tiré un coup en l'air et il n'y avait pas de balle.
Tu as donné à Randall un pistolet vide.
En fait, tu voulais qu'il se fasse pendre. Hélène écoute Jed avec effarement. Elle se tourne vers Tom, espérant qu'il va se défendre, mais celui-ci ne dit rien. Jed poursuit.
Dès le début de cette soirée, ton attitude me semblait bizarre.
Pourquoi refusais-tu les renforts que nous proposait le gouverneur ?
Pourquoi ne voulais-tu pas conduire Randall à Santa Fe ?
Simplement parce que tu souhaitais le voir mourir.
Mais ça n'a pas de sens ! S'écrie Hélène.
Oh si, Hélène. Au contraire. Votre frère possédait les mines de Creektown. Maintenant qu'il est mort, elles vous reviennent. En vous épousant, Tom serait donc devenu très riche. Alors il a tout manigancé pour que Eric se fasse lyncher. Il a lancé une grenade lacrymogène sur la foule. Il disait que c'était pour la disperser, mais en fait, il savait très bien que c'était le meilleur moyen d'envenimer les choses. Ensuite, il s'est débarrassé de moi en prétendant que j'étais corrompu. Enfin, il a mis le feu à l'arrière de la prison pour attirer les mineurs par là.
Ton plan était presque parfait, Tom. Malheureusement, tu as voulu en faire un peu trop.
Bragan pointe son revolver sur lui.
Tu mens, Jed. Tu mens et je vais te le prouver.
Jed a une hésitation. Bragan a très bien pu recharger l'arme avant de la déposer au pied de Randall. En un éclair, Jed dégaine et il tire. Tom s'écroule, touché en plein cœur. Jed se précipite sur lui et lui arrache son arme des mains. Il regarde le barillet et se penche vers Bragan. « Tu le savais, Tom. Tu savais que ton arme était vide. Pourquoi tu fais ça ? C'est un vrai suicide. » Écoute, Jed, je ne pouvais pas te laisser m'accuser ainsi devant Hélène. Il fallait au moins que je fasse semblant de me défendre. Tu comprends, Jed ? Je l'aimais. Mais maintenant qu'elle sait tout. » Il essaie de lever la tête pour apercevoir Hélène. Mais celle-ci s'éloigne en pleurant sans le regarder. Alors, Tom tend une main tremblante dans sa direction. À l'horizon, il y a les mines d'or de Crooktown. On a l'impression que la main de Tom est sur le point de les saisir. Mais une seconde plus tard, elle retombe lourdement dans la poussière.